Parce qu'on est né d'un grand pardon. Pas le Yom Kippour, un grand pardon de Dieu. Et je crois qu'il faut repenser à la valeur du pardon pour la vie chrétienne. Le pardon, c'est la fondation de la maison. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de relation avec les autres, et le pays va mal. C'est pas que l'État va nous pardonner quelque chose. Si vous faites une infraction au code de la route, vous ne serez pas pardonné. Il faudra payer. Mais l'État est fait d'hommes, de femmes qui vivent ensemble, qui se rencontrent. Et sans pardon, il n'y a pas de rencontre. Je lis avec vous dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 2. Évangile selon Marc, chapitre 2, verset 1er. L'histoire du paralysé de Capernaum. On ne va pas expliquer cette guérison, on la connaissait bien, bien qu'elle a des leçons à nous donner, mais ça va être une base de départ. Marc 2, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit » et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. » Marc chapitre 11, deuxième lecture, au verset 24. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et, continue Jésus, il ne s'arrête pas là. Nous, souvent, on met un point là. Il dit, c'est fini, on a tout fait. Il continue. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Votre amen est moins fort. Un troisième et dernier texte, très court, Matthieu chapitre 18. Je pourrais multiplier les textes sur le pardon, avec des beaux exemples. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Vous répondez, non ? Pas un chiffre, vous avez un chiffre ? Deux fois, c'est déjà pas mal. Hein. Faut pas abuser. Ou trois, bon, allez, à la rigueur. Jésus dit, sera-ce jusqu'à sept fois ? Dit plutôt l'apôtre. Jésus lui dit, je ne te dis pas sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. C'est autre chose. Et ensuite, il raconte l'histoire de l'homme qui avait une dette énorme. Je vous en dirai deux mots tout à l'heure. Que Dieu bénisse sa parole. Reste avec nous, Seigneur. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux et tu nous instruis ce matin. Amen. C'est quoi la leçon du fils prodigue ? Une leçon de pardon. Mais derrière le pardon, il y a de l'amour. Et derrière l'amour, il y a de la souffrance. Et l'histoire se finit bien. Ils sont réconciliés par le pardon. L'Évangile, c'est une histoire de pardon. Et un des plus grands témoignages sur le pardon, c'est quand Jésus est sur la croix et qu'il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il ne demande pas à Dieu de les sauver, malgré eux. Il continue de taper sur les clous. Pardonne-leur pour qu'ils puissent continuer à vivre et à faire leur travail. Quel travail ? Mettre Jésus sur la croix sans être foudroyé par la colère de Dieu. Parce qu'il touche, il blesse, il persécute, il détruise le corps du Fils de Dieu. Il a fallu un pardon de Dieu, un support pour qu'il continue sans imploser. Ici, dans notre histoire de l'évangile de Marc, Jésus a le pouvoir de pardonner. C'est-à-dire, il peut atteindre le mal tout au fond de nos reins, de nos cœurs. Il peut le régler, il peut l'ôter, il peut atteindre les profondeurs du cœur. Il a le pouvoir. Pardonner, ce n'est pas dire, bon, c'est pas grave, allez. Non, pardonner, c'est changer quelque chose en nous. Il a le pouvoir d'aller dans le cœur de son Père et de réconcilier le Père avec ses enfants. Le pouvoir de pardonner appartient à Dieu seul. Souvent, nous disons, bon, allez, je te pardonne, c'est fini. Oui, mais Dieu, c'est à Dieu de pardonner aussi, d'abord. Et Dieu pardonne quand nous pardonnons. C'est son bon plaisir, dit l'apôtre aux Philippiens. C'est son bon plaisir parce qu'il nous aime. C'est aussi son honneur de pardonner. S'il ne pardonnait pas, ce serait l'échec de sa création. Personne ne pourrait s'en sortir. Ce serait un échec. Or, la création, Dieu a dit, elle est bonne. Et Dieu, par honneur, il nous pardonne. Et puis, c'est sa nature de pardonner. L'Éternel, miséricordieux, lent à la colère, qui pardonne l'iniquité, etc. Vous connaissez dans l'Exode. C'est sa nature de pardonner. Il dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Il a pu être étonné, le paralysé. Ce n'était pas ce qu'il attendait. C'est un pardon que Jésus donne, offert gratuitement, sans que le paralysé ne demande quoi que ce soit. Mais il a vu la foi de ces hommes et de ce paralysé pour traverser le toit de l'église, enfin, le toit de la maison. Indignité des scribes. Comment cet homme pardonne ? C'est pas lui de pardonner, c'est à Dieu. Si Jésus dit qu'il a le pouvoir de pardonner, c'est parce que nos péchés le blessent. C'est parce que nos péchés ont touché son corps et son âme. Il peut pardonner parce que nos fautes, toutes nos fautes, sont contre lui. Ce que je fais contre mon frère, c'est contre Dieu que je le fais. Quand je blesse quelqu'un, je blesse Dieu. C'est à lui que je le fais. On ne peut pas séparer guérison et pardon. C'est pourquoi il a dit à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés. On ne peut pas séparer les deux dans l'Évangile. Jésus disait au paralytique qu'il avait guéri à Bethesda, va et ne pêche plus. Quand il y a une onction d'huile dans l'église, quand quelqu'un a besoin d'être guéri, il demande à l'église, demande au pasteur, faites-moi l'onction d'huile. Et Jacques, il dit dans son épître, eh bien, quand on a une onction d'huile, si la personne a commis des péchés, vous lui pardonnerez. On a toujours quelque chose contre quelqu'un. Hein. Vous lui pardonnerez, parce qu'il n'y a pas de guérison sans pardon. Dieu donne, si nous donnons aussi quelque chose. La guérison de ce paralysé l'a remis en mouvement, l'a remis debout. C'est comme le pardon. Le pardon, il nous remet en mouvement. Il répare la relation cassée entre Dieu et nous. Va dans ta maison. Le pardon, il répare la relation avec les autres, avec Dieu, pour qu'on puisse reprendre la relation. Va dans ta maison, retrouve ta petite femme qui t'attend, retrouve tes enfants. Parce que nos relations avec Dieu sont souvent paralysées. Nos relations avec les autres sont paralysées, sclérosées par des mensonges, par des tricheries, par des violences, par de l'indifférence. Mais le pardon de Dieu, il nous ressuscite, il nous remet dans la vie. C'est pas nous qui nous réconcilions avec lui. C'est pas nous qui disons, tiens, je vais me réconcilier avec Dieu. Quelle prétention. C'est Dieu qui nous réconcilie avec lui. C'est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il a pris nos mains et il les a mises dans ses mains. Comme le Père admirable, le Fils dit, moi je vais lui dire, papa, j'ai péché contre toi, mais le Père, il a dit, mon Fils que voici était mort, il est revenu à la vie. C'est le Père qui ressuscite le Fils. C'est toujours le Père qui ressuscite son enfant. Et la réconciliation, c'est l'œuvre de Dieu avec nous. Ce n'est pas notre capacité. Ce n'est pas tout ce qu'on fait pour rattraper, pour équilibrer les choses. Cette restauration-là de la vie, parce que le pardon, c'est la vie, ça s'appelle la grâce de Dieu. Voilà. Le pardon, ça s'appelle la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, ça veut dire un don gratuit. Un don, c'est toujours gratuit, mais enfin, la Bible accentue. Elle dit le don gratuit. C'est ça le pardon. C'est un cadeau gratuit par la foi seule. Dieu n'attend pas que l'on, il n'attend pas que l'on mérite le pardon pour nous pardonner. Quand on vient à lui, il efface toutes nos transgressions. Mais il y a eu la foi aussi. La foi pour recevoir le pardon, et j'en ai besoin, vous en avez besoin aujourd'hui. On a besoin d'être pardonné sur certaines choses de notre vie secrète, de pensées, de relations humaines, on a besoin de pardon. Cette semaine, tout ne s'est pas très bien passé. Eh bien, il faut la foi. Et la foi, ce n'est pas une liste de choses à faire, à croire. La foi, pour être pardonné, c'est une ouverture de cœur. La foi, ce n'est pas dire je crois que, je crois que, je crois que, je crois que. La foi, c'est une ouverture de cœur. Comme ils ont ouvert la toiture de la maison et le paralysé est descendu et Jésus a vu leur foi. Il a vu leur foi par l'ouverture qu'ils ont faite pour se paralyser. Pardon de Dieu, c'est notre vie. Mais ce pardon nous engage. C'est un trésor qui nous est confié. Et ce trésor nous engage à pardonner aux autres. Remets-nous nos offenses comme nous les remettons à ceux qui nous ont offensés. Regardez cet homme-là dont je voulais vous parler, mais je ne l'ai pas fait. Cet homme qui devait à son maître, au roi, il lui devait, mettons, allez, 300 millions d'euros. C'est pas rien déjà. Et le roi, bon enfant et compatissant, de bon cœur, dit, bon allez, je te fais grâce. Vous n'aurez pas ça tous les jours. Je n'ai pas de dossier de surendettement, pas d'emprisonnement. Je te fais grâce. Allez, je te connais, tu as mal travaillé, mais ça va se réparer. Je te fais grâce. Et cet homme qui a reçu 300 millions d'euros de grâce, quand il sort du palais royal, il rencontre son ami qui lui doit 50 euros. Il prend son ami, il le plaque par terre et il l'égorge en disant « Si tu ne me payes pas, paye-moi tout de suite !» Je peux vous dire que cet homme qui avait reçu la grâce de 300 millions d'euros, je prends un chiffre exagéré, mais Jésus l'a fait avant moi. Eh bien cet homme, il n'a pas mesuré la valeur du don qu'il a reçu. Et puis, quand on ne mesure pas ce qu'on reçoit, on ne donne pas aux autres. Il n'a pas mesuré la compassion de son maître. Et la compassion de son maître ne l'a pas changé. Moi, je vois ça. Des gens qui sont très bons avec d'autres. Et les autres ne changent pas dans leur attitude méprisante, dure, orgueilleuse. L'exemple ne paye pas toujours. La preuve, Jésus. Mais le pardon donné par Dieu, c'est un trésor sur la terre. Heureux l'homme, heureux, c'est Dieu qui le déclare. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné, c'est un bonheur, une tranquillité, c'est un repos, c'est une joie. C'est pour ça qu'on chante le Seigneur, alléluia. Mais j'arrive courtement à ce qui est un peu plus compliqué. Pardonner, car on nous a fait du mal, ce n'est pas une procédure automatique. Vous appuyez sur CTRL F, l'ordinateur. Ce n'est pas une procédure automatique. Ce n'est pas une formule pardonner. Allez, bon, je te pardonne. Parce qu'on peut dire ça sans être libéré totalement dans son cœur de sentiments de vengeance. On peut dire « je te pardonne » et au fond de son cœur, on est plein de haine et de rancune. Et rien ne change. C'est les mots qui changent, pas le cœur. Le pardon, c'est pas oublier. Oublier, on oubliera un jour, on perdra la mémoire, vous verrez. Mais même si on perdait la mémoire et qu'on ne se rappelle plus le mal, et le mal, si on ne le règle pas, il n'est pas réglé. N'attendez pas trop de perdre la mémoire, régler les choses aujourd'hui. Ce n'est pas une formule, je te pardonne. Pour être libéré, il faut un travail. Il faut travailler à reconstruire. Dans sa mentalité, dans son cœur, un bon sentiment, un sentiment qui oublie, oui, qui passe le cap. La vie est faite d'obstacles, et les obstacles, on les franchit à coups de pardon. Si on ne pardonne pas, on s'écroule au pied de l'obstacle. Et des familles ne se parlent plus, et des parents ne parlent plus aux enfants, et vice-versa, et des frères et sœurs, même dans l'Église, ne se parlent plus parce que l'obstacle, eh bien, on ne l'a pas franchi, on n'a pas pardonné. Dieu dit, l'Éternel, qui pardonne et qui oublie les péchés. C'est vrai, un proverbe juif dit, pardonne, mais n'oublie pas. Il y a des choses qu'on ne doit pas oublier, mais il faut oublier quand même cette offense, il ne faut plus en tenir compte dans la façon de regarder l'autre. Pardon est un travail de réconciliation. où nous ne sortirons pas de là sans souffrance. Regardez les frères de Joseph qui l'avaient tué. Ils l'avaient tué. Ils l'avaient mis dans une citerne, ils l'ont vendu. Ils le retrouvent des années plus tard. Et quand ils ont revu leur frère, ils ont été surpris et ils ont pleuré. C'était l'heure de la réconciliation. C'est l'heure du pardon. Et puis le pardon, eh bien, celui qui a été blessé et qui va pardonner, ça va aussi le faire souffrir. Le pardon, ça ne se fait pas sans souffrance, parce que pardonner, c'est parfois une souffrance, un renoncement. Quelqu'un me disait, c'est pas juste le pardon. Il m'a cassé deux dents, je devrais lui casser deux dents, pour qu'on soit à égalité. Eh bien, il t'a cassé deux dents, ben toi, tu ne vas pas lui casser deux dents, tu vas même payer, finalement, tu vas lui payer un tube de dentifrice. C'est pas juste le pardon. On ne rend pas coup pour coup. Donc, on est un peu déficitaire. Parfois, le pardon échoue. Parce qu'on a pardonné, mais celui qui a fait le mal, il ne le reconnaît pas. Il ne reconnaît pas le mal qu'il nous a fait. Nous, on pardonne, mais l'autre, c'est comme s'il n'avait rien fait. Et il refuse même de nous demander pardon. Mais il y a le pardon de Dieu qui nous donne un sentiment d'être aimé. Et ce pardon va guérir la dureté de nos cœurs pour que nous puissions pardonner. Même si en retour, nous n'avons rien. Il nous faut pardonner. Parce que le pardon nous permet de retrouver une place dans la communauté et d'être frères et sœurs ensemble, vraiment ensemble. Parce que s'il n'y a pas de pardon, les frères et sœurs, il y en a une qui est assise au troisième rang à gauche et l'autre au huitième rang à droite et elles évitent de se rencontrer à la sortie du culte. Et puis elles prennent la scène. Et puis elle ne se regarde pas, elle ne se parle pas. Mais le pardon nous remet dans la communauté. Le Père a dit au Fils prodigue, apportez la plus belle robe, faisons la fête, puis on le veau gras, on se met à table. On ne va pas le laisser manger dans son étable. On va manger à table, je fais des rimes aujourd'hui. Puis s'il n'y a pas le pardon, la prière devient impossible. Laisse là ton offrande. Si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Arrête et va te réconcilier d'abord. Si nous péchons dans l'affaire du pardon, ce n'est pas simplement une simple parole, je le répète. Nous avons besoin d'un avocat. Je cite de par cœur deux gens. 1 Jean chapitre 2, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés et pour ceux du monde entier. Ça veut dire, si nous péchons et que nous demandons pardon, il faudra l'intervention secourable du défenseur Jésus. Dans le ciel. Ça ne se fait pas au coin d'une table, on laisse fini, on prend un verre. Il faut que le Christ dans le ciel prie pour que Dieu lui-même nous pardonne et que nous soyons en relation d'amour avec lui. Et puis, quand il y a un pardon, il est la victime, c'est-à-dire nos péchés l'ont blessé, nos péchés l'ont conduit à la croix. Et quand il y a un pardon, eh bien, il faut reconnaître tout cela. Ce qui veut dire que quand on pardonne sur la terre, il se passe de grandes choses dans le ciel. Le Seigneur intervient, le Seigneur est l'avocat, il est la victime, il prie pour nous, il nous secourt. C'est beau le pardon. Ça met le ciel en mouvement et la terre en mouvement. Amen. Sur la terre, quand il y a du pardon, ça met de l'huile dans les rouages. Du couple qui parfois ne se parlent plus beaucoup, mangent sans se parler, sont en voiture sans se parler. Ça met de l'huile dans les rouages devant les enfants, surtout. Le pardon, ça étouffe les tensions. Le pardon, c'est important pour la réputation de l'Église. Si on se battait tous les dimanches matins rue Martenot, ça ne pourrait pas aller. Le pardon permet à l'Assemblée de vivre dans l'harmonie. Alors on pardonne, on va pardonner. Ce n'est pas un ordre, c'est un conseil. Pardonnez-vous les uns les autres. Mais n'oubliez jamais que le vrai pardon, celui qui enlève le péché de nos cœurs, c'est Dieu qui le donne. Donc il faut avoir une relation avec celui qu'on a blessé et une relation avec Dieu, nous les chrétiens, les deux. Jésus n'a pas pardonné à ses bourreaux. Il a dit « Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le pardon, c'est Dieu qui le donne. Mais aussi, vous le donnez aussi vous-même. Et quand on pardonne à un frère, à son mari, à ses enfants, quand on pardonne, eh bien, on ne devient pas un super-héros. Prenez-moi en photo. J'ai pardonné. On devient simplement des pécheurs pardonnés, qui demandent toujours pardon à Dieu. Et on n'est pas plus que les autres. Quand on pardonne, ça ne veut pas dire qu'on est sans péché. On continue de se dire, assis sur le même banc, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, c'est la condition aussi de notre pardon quotidien. Pardonne-nous comme... On pourrait faire la prière à l'envers. Ne me pardonne pas mes offenses parce que je ne pardonne pas mes ennemis. Je ne sais pas si vous pourriez la dire. Le pardon est le geste le plus grand de Dieu. Quelle est l'œuvre la plus grande de Dieu? Est-ce l'univers, les étoiles, le soleil? L'œuvre la plus grande de Dieu qui a coûté le plus cher, c'est le pardon de nos offenses. Et entre nous, il faut qu'on soit des imitateurs, qu'on soit parfait comme notre Père. Il faut pardonner. Mais il faut l'aide de Dieu pour pardonner. Parce que de nous-mêmes, c'est compliqué. Je ne joue pas les fiers dans le pardon. En disant, on a blessé mon enfant, mais je pardonne. Allez, alléluia. C'est compliqué. Il faut l'aide de Dieu, mais je crois que Dieu peut nous donner le vouloir et le faire. Il peut nous donner la volonté et la capacité avec le temps. Parfois, ça peut prendre des années, oui, des mois. C'est un travail de changer le regard sur celui qui nous a humiliés, qui a détruit notre réputation, notre dignité. Il faut du temps pour cela. Alors, la question pour conclure, faut-il pardonner à celui qui ne me demande jamais pardon? À celui qui ne se repent pas, à celui qui ne montre aucun regret, aucun changement? Moi, je vais vous dire, oui, il faut pardonner. Regardez l'histoire de Jésus. Il est venu 70 fois cette fois. Je prends ma calculette quand même, 490 fois, ça veut dire que cet homme, ce frère, ce cher frère, il n'a rien compris. Il n'a rien compris au péché, il n'a rien compris au pardon, il n'a rien compris à Dieu. Il est nul. Mais Jésus dit, tu lui pardonneras 490 fois. Il ne te demande pas pardon puisqu'il recommence. Mais tu lui pardonneras pour que... tu enlèves toutes les racines d'amertume qui sont dans ton cœur. Ne laisse pas ces paroles qu'il t'a données blessantes, ne laisse pas ces paroles te détruire, ne laisse pas ces paroles démolir ta joie, t'empêcher de prier. Enlève toutes les racines. Pardonne encore, encore, toujours. Mais quand il y a un changement chez celui qui fait du mal, quand il y a un pardon chez celui qui a été blessé, quand il y a un changement, un pardon, alors celui qui fait l'offense, il est délivré, et celui qui subit, eh bien, il est aussi délivré. Et ça, c'est beau. Amen. Je conclue. Le pardon est une condition pour la prière. Quand tu es debout faisant ta prière, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, oh là là, c'est une condition pour la prière. Parfois, nous cherchons une grande foi, la puissance. Mais je crois que Jésus a dit, la foi, ce n'est pas une question de grandeur. J'ai dit, un grain de sénévé, avec ça tu soulèves les montagnes. Regardez comme Jésus nous ramène terre à terre. Un petit grain, la foi comme un grain de sénévé, ça fait des miracles. La foi, ce n'est pas une question de grandeur, mais il y a dans notre vie, il y a des obstacles qui empêchent la foi. Il y a des obstacles qui empêchent l'exaucement. Il y a des obstacles qui empêchent la prière. Et un des plus grands obstacles, c'est le manque de pardon, le manque de réconciliation. C'est un obstacle majeur. Même dans le couple, il faut prendre soin de sa femme, de ses enfants. Et l'apôtre Pierre dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Si vous dites de mauvaises choses à votre femme, c'est un obstacle. Tu pries après, c'est même pas la peine de prier, Dieu n'entend pas. C'est un obstacle. Et puis, le pardon est important. Je vais vous citer une parole de tête de l'apôtre Paul. Je pardonne, dit Paul aux Corinthiens, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous. C'est important, hein, de ne pas laisser l'avantage à Satan. Parce que Satan envoie du désordre. Et il règne sur le désordre. Il aime bien le désordre. Il aime bien les disputes, il aime bien tout ce qui est mauvais. Et si nous, on laisse le désordre, ben Satan, il est assis dessus, puis c'est le chef, il trône. Il trône sur son désordre. Alors, il faut pardonner, il faut se réconcilier afin que Satan ne puisse pas avoir de place chez nous. Amen. Parce que si on lui donne un trône, il va le prendre. Et si on a des disputes non réglées, il va prendre ce siège en disant, mes amis, c'est moi le chef ici. Haïssez-vous les uns les autres. C'est ce qu'il nous dit. Mais en pardonnant, nous ouvrons le chemin au Seigneur. Nous aplanissons les montagnes, nous relevons les vallées, nous mettons un chemin droit pour le Seigneur. En pardonnant, nous libérons l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Amen. En pardonnant, nous libérons l'action du Saint-Esprit dans l'Église. C'est pourquoi tous les réveils, tous, ont été précédés d'abord par des temps de prière, de réconciliation, des temps de retour aux Écritures, des temps de sérieux, des temps d'examen, et le Saint-Esprit est passé comme un fleuve sur l'Église. Amen. Au jugement dernier, vous y pensez parfois? On sera devant le Seigneur là. Chérie, t'es pas là? Ben non. On sera devant le Seigneur. Et des livres seront ouverts. C'est sérieux, hein? Je ne pense pas que ce sont des livres comme nous le pensons. Mais enfin, c'est écrit, des livres seront ouverts. Et sur ces livres, nous lirons, et tout le monde lira, ce que nous avons fait. Les œuvres que nous avons faites. Et moi, je pense que les plus belles œuvres que nous pouvons faire et qui s'écrivent dans ce livre, c'est de demander pardon, c'est de donner le pardon, c'est de se réconcilier et d'être des artisans de paix. Amen. Comme le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi les uns les autres. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous donne la vérité. Seigneur, nous nous dispersons parfois dans des choses qui nous donnent une illusion, mais la vérité sur nos vies, c'est toi qui nous l'as dit. Tu ne sais pas que tu es comme ça. Cette vérité sur le pardon, nous voulons l'inscrire dans notre mémoire en lettres de feu. Sans ton pardon, sans le pardon donné, nous ne pouvons pas continuer, avancer, entrer dans ton royaume. Seigneur, donne-nous du sérieux. Donne-nous d'être vigilants sur nos paroles, nos actes, sur l'essentiel. Reprends-nous. Instruis-nous. Délivre-nous, Seigneur, des illusions que le temps nous envoie comme une poudre aux yeux. Fais-nous revenir à la condition des premiers disciples. Nous avons besoin de reprendre le chemin des disciples. Et le reste ira bien. Merci, Seigneur. Amen.